Le thème de cette série de prédications, c'est « Réveille-toi ». Alors, réveille-toi, pourquoi pas réveillez-vous, parce que je trouve que réveillez-vous, je m'adresse à tout le monde et à personne, tandis que réveille-toi, eh bien, c'est toi. Et si je dis réveillons-nous, ben, de nouveau, hein, nous, ben, je peux facilement regarder celui d'à côté qui n'est pas réveillé, et je peux me dire que je n'ai pas besoin de me réveiller. Et puis en français, l'impératif à soi-même, ce n'est pas très joli, hein, que je me réveille. En plus, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être dans un rêve et vous avez envie de vous réveiller et vous ne vous réveillez pas. Enfin, moi, ça m'arrive de temps en temps. Et c'est assez désagréable, hein, parce qu'on a souvent, c'est généralement des mauvais rêves. Et puis, il suffit que quelqu'un pose la main sur nous et puis on se réveille. Donc, réveille-toi, je crois qu'on a besoin de l'entendre, on a besoin de le vivre aussi. Ce matin, qui a mis son réveil pour se réveiller ? Il y a des gens, c'est incroyable, ça, je trouve ça c'est génial, ils se réveillent naturellement le matin, et je me dis, mais waouh, c'est magnifique. Et quand vous mettez le réveil ?
Je me suis réveillé 6 minutes avant que ça sonne.
Et c'était un peu ma prochaine question, est-ce que le réveil sonne une fois ou plusieurs fois ?
Il s'est réveillé pour réveiller le réveil.
Vous savez, maintenant, avec les natels, des fois, on peut mettre répéter sur le réveil. Il y a certaines personnes qui font jamais ça. Ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Mais je sais qu'il y a certaines personnes, j'en fais partie, qui vont cliquer sur le bouton « se réveiller une deuxième fois ». Voilà. Le réveil, c'est un thème aussi qui est assez étonnant. Donc si vous avez regardé sur Internet, j'ai mis un titre, parce qu'il faut mettre un titre, parce que c'est bien de mettre un titre sur Internet avant, et ça correspond plus ou moins à ce que je vais dire ce matin. Mais c'est assez dans la mode, hein. Quand on parle de réveil, en général, ça fonctionne, les gens, ils aiment bien qu'on parle de réveil. Je me souviens d'une fois, je suis allé à la RJ, c'est une rencontre de jeunesse, ça fait déjà bien quelques années, et l'orateur parle, waouh, c'est génial, j'ai lancé, il avait démarré une église, puis on lui dit, ah, mais qu'est-ce que tu vas démarrer une église, là-bas, il n'y aura personne. Et le premier jour, il ouvre, donc il nous raconte tout ça, il ouvre pour le culte d'inauguration, il y a 300 personnes dans la salle, puis il dit, ben voilà, je vous avais dit, c'est le réveil, les gens se convertissent. Et puis tout le monde était très content d'entendre ça. Mais je suis toujours un petit peu dubitatif quand j'entends ça. D'un côté, j'ai envie d'y croire, je trouve ça magnifique de se dire, maintenant qu'on claque, il y a quelque chose qui se passe, puis tout le monde se convertit. Puis d'un autre côté, le gars qui ouvre une église, et puis il y a 300 personnes le premier jour, et c'est des chrétiens des autres églises qui sont venus, hein. Je suis désolé, hein, il ne faut pas se voiler la face, c'est des chrétiens des autres églises qui sont venus. Parce que le premier dimanche, il n'y a encore aucun non-chrétien, ou peut-être un ou deux, le concierge du bâtiment. Mais à part ça, il n'y a personne qui savait qu'il y avait une église qui allait démarrer là. Donc je pense que quand on parle de réveil, et puis on dit, hey, regardez ici, il y a un réveil. Peut-être soyons quand même juste un petit peu attentifs à ce qui se passe. Parce que je l'ai aussi entendu en Suisse romande, il y a quelques années en arrière. Ah, ici, il y a un réveil. Bon, l'église a beaucoup grandi, je suis d'accord. Je discutais avec d'autres collègues, il y a d'autres églises qui ont bien diminué. Donc, quand on parle de réveil, c'est quelque chose qui nous attire, qui fonctionne, mais soyons un petit peu attentifs. Un truc qui fonctionne super bien, vous l'avez peut-être entendu, si vous êtes avec des jeunes, je ne sais pas si ça marche aussi avec des plus âgés, mais peut-être que vous êtes suffisamment sages pour que ça ne fonctionne pas. Je vois une génération qui va changer le monde. Je vois une génération qui va marcher avec Dieu, qui va être fidèle. J'ai envie d'y croire. Et je crois que c'est possible, parce que Dieu est en train d'appeler des hommes et des femmes, il est en train de vous appeler, il est en train de nous appeler. Et nous sommes à un pas qu'il y ait une génération qui change le monde. Mais il y a aussi parfois une petite forme de manipulation que j'aime pas trop. Parce que j'ai entendu ça dans des... Maintenant j'ai 35 ans, 36 même. Je regarde les jeunes avec qui j'étais au camp. Il y a des choses magnifiques qui sont produites, mais on est loin d'un changement général dans la société, comme ça avait été annoncé, prophétisé il y a quelques années en arrière. Mais pourquoi ça marche ? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un nous dit « je vois un réveil », eh bien tout le monde se dit « waouh » et ouvre les yeux, et ouvre grand ses oreilles, écoute et y croit. Ça touche quelque chose profondément en nous. Parce qu'on n'est pas juste né avec un corps, mais une partie en nous qui a besoin d'être réveillée. Quand Dieu il a créé l'homme à son image, il a dit qu'il a soufflé pour lui donner le souffle de vie. Et c'est cette vie-là à laquelle on aspire. Et quand on se dit, il y a un réveil, on se dit, mais enfin, l'homme va être réconcilié avec Dieu. Enfin, l'être humain va être réconcilié avec lui-même. Enfin, il va recevoir la vie qui ne s'éteindra jamais. Alors, je vous propose, pour aller un petit peu plus loin, qu'on ouvre la Bible en Jean 3. C'est une rencontre assez étonnante, et je vais la lire petit à petit. On va d'abord lire les quatre premiers versets. Jésus, ça fait quelques temps qu'il parle, qu'il prêche et qu'il fait des miracles. Or, il y avait un homme parmi les pharisiens, un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui dit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il, une seconde fois, entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» On s'arrête là, on va prendre la suite après. Qu'est-ce que Nicodème cherchait? C'était un pharisien, donc c'était un des... Alors il y avait plusieurs factions chez les juifs, et les pharisiens, c'était les durs de durs, ceux qui voulaient appliquer la loi, et plus que la loi, donc il y avait la loi de Dieu, puis ils avaient encore ajouté tout un tas de commandements pour éviter de transgresser la loi de Dieu. Et ils faisaient partie de ce groupe-là qui disait, mais maintenant il faut vraiment faire ce que Dieu nous demande. Puis on va voir dans la suite de l'évangile, les pharisiens et Jésus, ils ne sont pas très copains. Parce que Jésus, ben, il a un message de vie, et les pharisiens, ils ont un message légaliste. Nicodème, il arrive de nuit vers Jésus. Donc déjà, on se dit, bon, il n'a pas envie de se faire prendre, hein, il a envie d'être discret. Et il arrive vers Jésus, et puis il lui dit, mais nous savons que tu es un enseignant, parce que personne ne peut faire ces signes que tu fais, ces signes, ces miracles, s'il n'a pas été envoyé de Dieu. Moi, je trouve assez étonnant, hein, il n'y a pas de question. Déjà, il voit juste, mais il voit qu'à moitié, puisqu'il parle de Jésus comme d'un enseignant. Mais Jésus était bien plus qu'un enseignant. Il n'avait pas compris qui était Jésus. Il n'avait pas compris que c'était le Fils de Dieu. Et puis, moi, je me dis, au moins, il y avait une petite attente. Il avait envie d'en savoir plus. Et moi, je trouve cette rencontre très encourageante, parce que quand je m'approche de Jésus, je suis aussi maladroit. Je ne sais pas comment vous êtes venu ce matin, mais peut-être que quelqu'un vous a invité, peut-être que vous vous êtes dit, ben, j'ai entendu parler de Jésus, je ne sais pas trop, on va aller voir, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et Jésus, il accueille Nicodème. Il accueille Nicodème et il va pouvoir mettre des mots sur ce que Nicodème est en train de chercher. Nicodème, il n'a pas réussi à mettre des mots dessus, mais Jésus, il va poser des mots. Je trouve encourageant, Jésus ne met pas la barre trop. Aujourd'hui, on est dans une soif d'avoir une réalité. Vous savez, on nous promet une réalité qui est plus vraie que vraie. Je trouve impressionné au niveau de la vidéo. On avait le HD, hein, haute définition. Après, on a eu le 4K. Après, on a le 8K quand on va dans ces magasins où il y a des télés et puis ils montrent des choses. On a l'impression que c'est plus vrai que vrai. On voit un petit grain de pissenlit là, qui est zoomé et puis on se dit « Waouh, c'est incroyable !» Puis avec l'intelligence artificielle, c'est aussi génial. On nous donne l'impression qu'on va pouvoir avoir un meilleur accès à la réalité. Donc vous n'avez pas cette impression-là? Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne, c'est qu'on est en train de nous dire qu'il y a une réalité à laquelle on n'arrive pas à accéder et on va vous permettre, par le biais de la technologie, d'y arriver. Bon, on lit la suite du texte. Verset 5. Jésus répondit. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et donc Jésus va lui répondre et lui dire, mais en fait, ce que tu es en train de chercher, c'est cette nouvelle naissance qui vient par le Saint-Esprit. Il y a un jeu de mots en grec entre nouveau et d'en haut. C'est le même mot, en fait, on peut dire la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut. Et on voit qu'il y a une confusion entre Nicodème et Jésus à ce sujet-là. Et on imagine bien que Jésus est en train un peu de titiller Nicodème là-dessus. Et c'est ça, en fait, que Nicodème est en train de chercher. Il est en train de chercher une nouvelle naissance. Il est en train de chercher à voir le royaume de Dieu. Parce qu'on sait que ce qu'on voit ici, ce n'est pas la finalité. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand. On a besoin que nos yeux s'ouvrent pour voir quel est le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit, mais il faut pour cela naître d'eau et d'esprit. Ce qui est humain, et ce qui est esprit. Là, ça, on préfère une longue étude biblique, mais on ne va pas faire ça ce matin, mais c'est assez génial si on pense au prologue de Jean, quand il est dit que les enfants de Dieu ne sont nés ni de la volonté d'un homme, mais qu'ils sont nés de Dieu. On va voir des rappels comme ça tout au long de l'évangile. Donc là, je le dis un peu pour les routards de la foi. Hein. Regardez ce thème qui revient dans l'évangile de Jean, c'est juste magnifique. Qu'est-ce que Nicodème cherchait ? Il cherchait une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Et je crois que c'est quelque chose à laquelle on aspire tous. On rencontre des gens autour de nous qui ont soif d'un nouveau départ. Et alors, ils vont commencer à essayer une thérapie par les pierres, ou ils vont aller voir un médium, ou bien ils vont aller commencer du yoga, ou je ne sais quoi. Ils vont essayer de trouver une façon de pouvoir prendre un nouveau départ. Je ne sais pas comment vous voyez ces gens autour de vous qui font ça. Je suis toujours un petit peu étonné. Ça produit rarement vraiment l'effet que les gens voulaient. Et là, Jésus, il dit, mais il y a la possibilité d'avoir une nouvelle naissance. Et c'est ça que ça titille en nous quand on parle du réveil. Parce qu'on se dit, mais oui, on a la possibilité de plus. Alors, on pourrait faire une longue analyse théologique, notamment avec la Genèse et autres, mais j'aimerais plutôt entrer dans quelque chose de pratique. Comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau ? En fait, il y a quelque chose de très très simple, on va lire dans la suite du texte, mais je fais un spoiler là. Il faut faire confiance à Jésus. Et ça transforme une vie de faire confiance à Jésus. Je me souviens quand moi j'ai entendu parler de Dieu depuis que je suis tout petit, parce que mes parents étaient chrétiens. Mais je me souviens du moment où je me suis dit, mais oui Jésus, je veux te suivre. Et ça, je vous dis, il y a eu un avant et il y a eu un après. J'ai reçu une paix incroyable. Il y a eu des relations autour de moi qui ont été reconstruites, comme réconciliées. C'est venu, j'ai envie de dire, presque naturellement. Et puis, à ce moment-là, je me suis beaucoup engagé dans mon groupe de jeunes, et puis j'ai vu des jeunes qui venaient, qui rencontraient Dieu, et qui étaient transformés. Je me souviens d'une fille qui avait pas mal de problèmes à la maison, je crois qu'elle se scarifiait, des choses comme ça, puis qui était très sombre, et quand elle a rencontré Jésus, mais vraiment, son visage a changé. Et c'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on a besoin de vivre. Et je crois que beaucoup d'entre nous ce matin, si on parlait de l'expérience qu'on a fait avec Jésus, ça a été une nouvelle naissance, un nouveau départ. Et ça, ce n'est pas des longues théories. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire confiance à Jésus. On continue le texte. Verset 14. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Donc quand Jésus parle du Fils de l'homme, il parle de lui-même. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça vous connaissez, hein ? En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je fais juste une petite pause là. Quand Israël était dans le désert, peut-être vous connaissez cette histoire, Israël a été appelé hors d'Égypte, à aller dans le désert. Et puis, vous savez, un jour, ils suivaient Dieu, puis un jour, ils ne suivaient pas Dieu. C'était un petit peu comme ça, un petit peu comme nous, en fait. Et puis, Dieu leur met toujours des rappels pour leur dire, mais continuez à me suivre. Et un jour, qu'ils se sont éloignés de lui, Dieu envoie des serpents. Et les serpents commencent à mordre les Israélites, et les Israélites commencent à mourir. Et alors, ils se tournent vers Dieu, et Dieu dit à Moïse de faire un serpent d'airain qu'il va mettre au-dessus d'un bâton, et quand quelqu'un se fait mordre, il regarde ce serpent d'airain, et il guérisse. Et Jésus parle de ce serpent d'airain et en disant, mais le Fils de l'homme va avoir cette même fonction de sauver. Et en fait, ce qui avait été dressé dans le désert était une préfiguration de ce que Christ allait accomplir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans les ténèbres, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait pour Dieu. Et c'est la fin de ce que Jésus va dire à Nicodème. En fait, il va dire, mais si tu veux naître de nouveau, il faut regarder. Alors, il ne pouvait pas dire regarder à la croix, parce que la croix n'avait pas encore eu lieu. Mais c'est ça, regarde à ce que le Christ va accomplir. Si on veut avoir une nouvelle naissance, il faut faire confiance à Jésus. Vous savez ce qui s'est passé avec le serpent d'airain? Il s'est retrouvé dans le temple. Et les Israélites ont commencé à lui sacrifier des idoles, à lui faire des sacrifices. Le signe de salut que Dieu avait donné au peuple d'Israël est devenu un objet d'idolâtrie. Au lieu de conduire à Dieu, il les a éloignés de Dieu. Et vous savez, la croix, des fois je regarde des films, puis on voit, il y a quelqu'un qui arrive vers un méchant, puis qui brandit la croix comme ça. Il n'y a rien derrière, c'est juste, on met la croix, puis on chasse le démon avec la croix. Et je pense qu'on peut avoir ce rapport-là avec la croix, c'est-à-dire de penser que c'est quelque chose de magique qui va nous sauver. Puis on dit, mais voilà, c'est bon, je me suis signé, c'est bon, je suis pur. Oui, Jésus, il est mort sur la croix, je suis venu à l'église, j'ai lu le texte, c'est bon. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus demande. La croix, elle n'est pas juste là comme une sorte de totem qu'on peut brandir pour dire, mais c'est bon, Christ est mort pour nos péchés. La croix, c'est là où Jésus a payé pour mes péchés à moi. Pas juste ceux de tout le monde, mais les miens à moi. C'est le lieu où il était puni par Dieu à ma place. Et c'est le lieu où il a remporté la victoire pour moi. Pourquoi ? Pour que je puisse aller m'acheter une Ferrari en sortant de l'église. Mais non ! Pour que je sois réconcilié avec Dieu et que j'entretienne jour après jour une relation avec lui. Et ce qui porte à salut, c'est pas de dire « mais je suis sous le signe de la croix ». Ce qui porte à salut, c'est d'être en relation avec Dieu. Et Jésus a permis cette relation avec notre Père. Et Jésus dit à Nicodème, mais la lumière. C'est assez drôle, hein, parce que Nicodème, il vient le voir de nuit. Jésus dit, mais attends, je suis venu apporter la lumière. Donc de nouveau, dans le prologue, Jésus était la lumière, et les hommes l'ont rejeté. Est-ce qu'on est prêt à ce que Dieu vienne éclairer toutes les facettes de notre vie? Moi, je ne suis pas tout à fait prêt. J'avoue, moi j'ai encore besoin d'être réveillé. Que toutes les facettes, parce que ça veut dire qu'on doit aussi chercher à ce que chaque facette de notre vie reflète le Christ. Il est question d'une nouvelle naissance, et c'est pas pour rien, c'est pas juste parce que ça nous fait du bien, parce qu'on en a besoin, mais c'est parce qu'il y a un changement. Et vous savez, quand on commence à faire confiance à Jésus-Christ, on prend conscience d'une réalité. Il y a cette nouvelle naissance, ce nouvel être intérieur qui vit en nous. Et puis, Il y a le vieil être qui nous colle à la peau. On sait qu'il est mort, on sait qu'il est enterré avec le Christ, mais il a des soubresauts. Et puis, marcher avec le Christ dans la lumière du Christ, ben, ça veut dire laisser le vieil homme derrière. Et ça fait mal. Parce que le vieil homme, bon, on le voit souvent avec le péché. Bien sûr qu'il faut laisser le péché derrière. Mais ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la célébrité. Ça peut être la carrière. Ça peut être la reconnaissance. Il peut y avoir beaucoup de choses qui sont attachées à ce vieil homme et qui essaient de nous coller à la peau. Et naître de nouveau, ça veut dire abandonner tout ça. Une certaine radicalité qui conduit à la vie. Alors vous voyez le lien avec le réveil. C'est qu'il ne faut pas s'endormir. Il faut rester réveillé. Ce n'est pas parce qu'on a fait cette étape, qu'on a reçu cette nouvelle naissance, qu'on peut maintenant aller se la couler douce. On doit rester réveillé. On a besoin d'être réveillé. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des alarmes qui sont en train de sonner comme ça. Et puis soit on peut se dire, bon ben, c'est pas grave, hein, dans 10 minutes elle va sonner l'alarme, je me réveillerai dans 10 minutes. Non. Moi je pense que ce qui est en train de se passer avec la fête des trois marchés, c'est une alarme qui est en train de sonner. De dire, mais est-ce qu'en tant que chrétien, est-ce qu'on est là et est-ce qu'on prend notre place? Est-ce qu'on est à fond pour Dieu? Est-ce qu'on va dire, mais la solution, elle est en Christ? Ou est-ce que finalement, on se dit, bon, ben, c'est pas trop grave? C'est une lame de fond qui est là. Je discutais hier avec quelqu'un de C3 à Lausanne, qui est une grande église. Ils ont deux cultes avec chaque fois des centaines de personnes. Ils se réunissent au Palais de Beaulieu. Le Palais de Beaulieu à Lausanne, c'est un peu comme Palais Expo à Genève, sauf en proportion lausannoise. Donc plus petit. Et ils se réunissent là le dimanche, ils louent les locaux, et puis c'est plein. Et là, on leur a dit, à partir de 2027, fin du bail, on ne vous veut plus. Pourquoi? À cause de la neutralité confessionnelle. On ne veut plus d'église. Ça, c'est un réveil qui est en train de sonner, qui est en train de dire, mais attendez, mais pourquoi est-ce que sur la base de notre foi, on n'a plus le droit d'avoir accès à ce genre d'endroit? La fête des trois marchés, là, c'est juste une manifestation. Mais en fait, derrière, ce qu'il y a, c'est la possibilité aux chrétiens d'être sur l'espace public, de dire qu'on croit en Jésus-Christ, que c'est notre Seigneur, que c'est notre Sauveur. Et ça, on était déjà au courant. Il y a eu toute l'affaire avec les baptêmes. On sait qu'il y a cette volonté de dire, ben, les chrétiens, vous êtes bien gentils, mais restez entre vous. Est-ce qu'on va être radical dans ce qu'on vit? Premièrement, face au mal, face au péché qui a si facilement tendance à nous coller à la peau. Mais est-ce que toute notre vie, est-ce qu'on va la mettre à la suite du Christ? Nous recevons une nouvelle vie pour de nouveaux projets, pour une nouvelle façon de se comporter. Bon, la vie de Nicodème, elle a continué. Et puis, un jour, ça chauffe un petit peu entre Jésus et puis les pharisiens. Et les pharisiens envoient des gardes pour arrêter Jésus. Puis ils vont vers Jésus. Et puis ils reviennent vers les pharisiens. Et puis ils disent ceci, en Jean 7, verset 45. « Ainsi les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens qui leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Ils sont revenus bredouillés. Les gardes répondirent, « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous êtes laissé tromper ? Vous vous êtes laissé tromper ? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent, « Es-tu, toi aussi, de la Galilée ? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Puis chacun rentra chez soi. Je trouve étonnant. Nicodème, qui est venu de nuit, tout d'un coup, il prend position. Il dit, mais non, ça, c'est pas possible. Est-ce qu'on est prêt à ça? Ah ça, ça en coûte. Il risquait quelque chose, là, Nicodème. Il risquait sa place, il risquait sa position, sa respectabilité. Des fois, je me dis, mais si dans notre société, tous les chrétiens disaient non, mais maintenant, les églises, on va les laisser tranquilles, parce qu'elles font rien de mal. Bien sûr que les gens qui sont en position de le faire, il risque quelque chose, que ce n'est pas facile. Mais réveillons-nous, il y a un enjeu qui est là. Aujourd'hui, c'est encore possible, mais demain, qu'est-ce qu'il en sera? Et on voit que ce réveil, pour Nicodème, il est progressif. Et moi, j'aime bien ça. Parce que vous savez, il y a des choses dans la vie où on arrive, tac, et puis du jour au lendemain, tout, ça a changé. On était quelqu'un hier, et aujourd'hui, on est quelqu'un d'autre. Puis des fois, on met un peu plus de temps à se réveiller. Et j'aime bien Nicodème, parce qu'il met un peu de temps à se réveiller, mais il va arriver jusqu'au bout de son réveil. Et moi, je me dis, mais on va se réveiller. Réveillons-nous, on va continuer à le dire, on va s'encourager les uns les autres, on va prier les uns pour les autres, pour être à fond pour Dieu. Parce que vous savez comment se poursuit la vie de Jésus. Ben c'est pour ça qu'il était venu. Il était venu pour être rejeté par tout le monde, pour se faire crucifier sur la croix, pour être la lumière du monde. Et alors que tout le monde l'avait abandonné, il était en train de pendre sur la croix. On lit ceci en Jean 19, versets 38 et suivants. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des chefs des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apporta un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Quel courage! Alors que tout le monde était parti, les plus proches disciples de Jésus, ceux avec qui il avait passé 3 ans, ils sont partis. Mais Nicodème et Joseph d'Arimathée vont chercher le corps de Jésus et lui offrent une sépulture digne. Alors la tombe n'aura pas été utilisée pendant très longtemps, puisque Jésus est ressuscité et que le tombeau était vide après. Mais je crois qu'il y a vraiment une invitation à se réveiller. Aujourd'hui, on n'est pas à l'heure des demi-mesures. Il faut être radical pour Dieu. Et je crois que notre société a besoin qu'on soit radical pour Jésus. Moi, je suis effaré quand je vois la politique où il y a une sorte de clivage entre les partis. Il n'y a même plus de discussion. Mais ça intéresse les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de radicalité. Je crois que notre société, on a marre d'être enfumée par des faux discours. Alors, je ne suis pas en train de dire que la politique a changé et puis que c'est la recherche de la vérité, mais on a le Christ à faire connaître. Soyons radicaux pour le faire connaître. Le monde est en recherche de vérité, a soif de vérité. Et c'est à nous que Dieu a confié la possibilité d'être témoin du Christ. Je trouve incroyable. Je dis témoin du Christ parce que porteur de vérité, je pense que c'est quand même un autre fardeau. Et je pense que c'est vite très dangereux. Donc soyons témoins du Christ, parce que la vérité, c'est lui, c'est pas nous. Aujourd'hui, c'est le moment de se réveiller. Il y a le réveil qui sonne, une fois, deux fois, 10 fois. Ça vous est déjà arrivé de répéter 10 fois le réveil? Oui? Est-ce que vous êtes arrivé à l'heure au rendez-vous? Moyen. Donc, je pense que maintenant, il y a des réveils qui sonnent, et puis c'est l'occasion de se dire, mais oui, on va se lever. On va se lever pour Dieu, et puis on va avoir une vie radicale pour lui. Et puis, ben, tant pis si notre vieille nature, elle doit mourir, parce qu'on reçoit une nouvelle vie en Christ. Ben, je propose qu'on puisse prier, puis après, il y aura la Sainte Cène. Puis que peut-être ceux qui ont envie de se dire, mais oui, là, j'ai besoin d'un nouveau départ, j'ai envie d'être à fond pour Dieu, j'ai envie d'être radical, je suis prêt à pardonner à ceux qui m'ont offensé, je suis prêt à vivre des relations familiales qui sont renouvelées, je suis prêt à laisser le péché qui me colle à la peau, je suis prêt à renoncer à ma carrière pour Dieu. Je propose qu'on puisse se lever, puis simplement marcher avec Jésus, et puis qu'on puisse prier pour lui demander qu'il nous donne ce courage, cette façon de faire, et Dieu va nous conduire. Seigneur, on veut s'approcher de toi. C'est un engagement qui n'est pas facile de se dire on va marcher avec toi. Seigneur, merci parce que tu sais exactement ce qu'on a besoin. Nicodème, il est venu, il pose des questions. On se dit, mais pourquoi il pose ces questions? Et toi, tu mets le doigt sur ce dont il a besoin aujourd'hui. Ce matin, on a entendu beaucoup de choses, mais par ton esprit, viens mettre le doigt sur ce que nous avons besoin d'entendre pour aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, la barre, elle est trop haute pour nous de se dire, mais c'est trop radical comme changement. Fais-nous cheminer comme Nicodème pour qu'on soit prêt à prendre position le moment où tu nous appelleras à dire clairement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Seigneur, merci parce que c'est par ta grâce et par ta grâce que nous allons pouvoir avancer. Amen.